Franck Pourrier Activité, avec nous par téléphone, Régis Ambroise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président du collectif Paysage de la Perret Prétrole. Le paysage comme outil de la transition énergétique, c'était dans le cadre de ces conférences annuelles des territoires avec le parc naturel régional de Lorraine, notamment une centrale photovoltaïque sur un bâtiment industriel à Bataville. C'est un peu le sujet qui a eu lieu justement le jeudi 30 juin à Bataville, à Moussé.
Eh bien oui, c'est ça, c'est-à-dire que là, les élus, les techniciens qui étaient invités avaient à réfléchir sur comment trouver les moyens d'entrer dans une transition énergétique, sachant que les chiffres et les données apportées par la COP21 vont nous forcer à envisager une modification de nos styles de vie et de nos modes d'organisation de l'espace pour arriver à ne plus utiliser trop de pétrole et de ressources fossiles et en même temps trouver donc des alternatives.
Alors justement, est-ce que ces modifications sont réalisables ?
Alors si vous voulez, nous on s'appuie un peu sur une approche un peu historique. Si on regarde le 19e siècle, hein, qui a été un siècle en France assez favorable, notamment au développement de la ruralité, on se rend compte que les paysans ont réussi à développer la production très très fortement en utilisant essentiellement des ressources locales qu'ils avaient sur place, qui étaient des ressources naturelles. Il y avait l'eau, les sols sur lesquels ils mettaient des cultures ou de l'élevage, des arbres, il y avait des pierres, il y avait de la biodiversité. Et tous ces éléments, ils les ont organisés, c'est-à-dire qu'ils ont réalisé un aménagement de l'espace au service de l'objectif de produire et de fournir à la fois de l'alimentation, mais de réaliser les villages, les routes, etc. Avec finalement les énergies naturelles dont ils disposaient, donc la leur déjà, énergie animale, énergie fossile, énergie hydraulique, énergie éolienne, etc. Le XXe siècle a complètement rompu ce lien que pouvaient avoir les sociétés avec la nature. Et ça, c'est venu du fait d'une nouvelle énergie extraordinaire. Hein. Bon, on avait déjà eu un peu le charbon, mais là, plus lourdement, ça a été le pétrole, le gaz. Donc des ressources fossiles qui ont été disponibles, qui n'étaient pas chères, et qui nous ont permis de résoudre tout un tas de problèmes qu'on a pour développer le pays. Et ça s'est traduit par une organisation de l'espace tout à fait nouvelle qui était fondée sur des modèles. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'agriculture, pour mettre en œuvre une agriculture qui n'avait plus besoin de s'intéresser à ses ressources naturelles dont elle était devenue experte, il lui suffisait d'amener des gros tracteurs avec du fioul, des engrais chimiques qui venaient également du sous-sol, et des phytos, etc. Et donc de mettre en place une agriculture industrielle. Et pour que ces ressources fossiles soient le mieux utilisées, il fallait organiser l'espace par rapport à cet objectif. Donc il y a eu un investissement très lourd de la société. Il y a eu plus de 20 000 remembrements en France hein, dans les 40-50 dernières années. On a drainé, on a aménagé l'espace, on a supprimé les chemins, on a irrigué. Et tout ça a mis en place une agriculture moderne, industrielle, avec le seul problème, c'est que d'une part, ces éléments sont souvent polluants pour l'eau, pour les sols. Bon, mais ça, encore à la rigueur, on se disait on va trouver des solutions. Mais finalement, on se rend compte que l'usage du pétrole qui est derrière tous ces éléments ne pourra pas durer. Parce que le pétrole, tous ces usages sont responsables des gaz à effet de serre. Et les gaz à effet de serre sont aujourd'hui, on se rend compte qu'ils vont nous mener à une catastrophe à partir du moment où le climat va se réchauffer au-delà des 2 degrés qui était un peu la limite que l'on s'est donnée lors de la COP21. Et donc, il va falloir absolument... Alors, je parle de l'agriculture que je connais plus, mais on pourrait dire exactement la même chose dans les villes. On a transformé l'organisation des villes au service de la voiture, avec les routes, les autoroutes, les zones commerciales, etc. tout ça fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse à comment réorganiser notre espace urbain, notre espace rural, de façon à pouvoir économiser les énergies fossiles, remettre en valeur des énergies qu'on avait négligées. Par exemple, dans les Vosges, il y a l'énergie hydraulique qui était essentielle jusqu'à la fin du 19e siècle, qui permettait d'alimenter toutes les filatures qui existaient dans tous les villages. Bon, tout ça a disparu. Et pourtant, cette énergie est encore potentiellement là. Hein. Et puis, il y a également, évidemment, de trouver de nouvelles formes d'énergie renouvelables, que peuvent être l'éolien, le photovoltaïque, etc. Et voilà. Et donc, ce sur quoi nous insistons beaucoup dans notre collectif, c'est de dire il ne suffit pas d'apporter des nouvelles techniques, même si elles sont vertes, mais il faut également essayer de réfléchir à comment restructurer, refonder, réorganiser l'espace au service de la transition énergétique. Et dans les questions d'urbanisme, il faut qu'on essaye de repenser où on va faire passer les routes, où on va mettre les lotissements pour qu'ils soient abrités du vent, etc. Enfin, des logiques d'urbanisme qu'on avait connues de tout temps, quand on n'avait pas les moyens d'avoir plein de chauffage disponible. Et pareil pour l'agriculture, eh bien, il va falloir qu'on recompose le parcellaire agricole au service d'une agroécologie qui est une manière de produire avec la nature plutôt que contre elle. Donc, si on veut que les auxiliaires, des insectes auxiliaires viennent remplacer les phytosanitaires, les auxiliaires ont besoin d'abris, donc il ne faut pas faire de parcelles de plus de 120 mètres de large, par exemple. Il faut essayer de remettre les plantes là où les potentiels agronomiques correspondent, hein, et pas simplement mettre tout à plat et drainer, et puis par là-dessus, avec des engrais, on arrive à faire pousser n'importe quoi, n'importe où, quoi. Voilà. Et voilà, donc c'est un peu le point de vue qu'on cherchait à développer. Et peut-être ce qui est un peu les points forts des approches paysagères qu'on essaye de développer, c'est que les solutions devront être adaptées à chaque territoire. Les modèles qu'on a mis en place dans la période industrielle étaient des modèles qu'on a essayé de généraliser sur tous les territoires. Donner un exemple, on a été capable de faire du maïs en silage du nord au sud de la France. Voilà, et ce système-là ne pourra pas durer. Au même titre que les villes se sont étendues avec le même système qui mettait des zones industrielles à la sortie des villes sur les routes, et en niant finalement les singularités des territoires de chacune des villes, eh bien, il va falloir qu'on réfléchisse de nouveau avec ces singularités, à la fois naturelles et humaines, pour trouver les formes les plus intéressantes, les plus économes, les plus intelligentes, qui vont nous permettre de trouver les solutions pour avoir des alternatives à cette obligation qu'on va avoir de ne plus utiliser les ressources fossiles. Donc ça, c'est un peu un premier point de recontextualiser, si on veut, les solutions, plutôt que d'utiliser des modèles tout faits qu'on généralise partout. Le deuxième point, c'est de changer également une notion qui a été très forte depuis la fin de la guerre dans l'aménagement du territoire. C'est la notion du zonage. On a cherché quand on faisait des documents de planification, eh bien, on a déterminé des zones. Et sur ces zones, alors il y avait les zones agricoles, les zones forestières, il y avait les zones urbanisées, les zones de loisirs, les zones d'activité, etc. Chacune de ces zones, dont on a défini les contours dans les plans locaux d'urbanisme, dans tous les documents d'urbanisme ont permis de préciser ces zones. Il y avait des zones également qui concernaient la qualité de l'eau, la protection de la biodiversité. Donc la notion était de dire une zone a une fonction. Et donc si on protège l'eau, on protège l'eau, point. Voilà. Si on est une zone agricole, la seule fonction de cette zone, c'est de produire des aliments. Or, si on fait la somme de toutes ces zones par rapport aux besoins de la planète, eh bien, si on fait la somme de tout ce qu'on aura besoin pour se loger, pour se nourrir, pour avoir de l'eau, pour avoir de la biodiversité qui respecte les grands ensembles, etc., il nous faudra trois planètes. Donc ça n'est pas possible de continuer sur ces systèmes-là. Et il va falloir qu'on réfléchisse à faire en sorte que chaque zone, même si prioritairement elle est destinée à faire de l'agriculture, par exemple, eh bien, elle permette en même temps de faire de l'eau propre, d'avoir un minimum de biodiversité, de respecter des espaces pour l'agrément des populations, etc. Et pareil en ville, eh bien, il va falloir qu'on trouve des moyens de faire en sorte que des bâtiments puissent servir également à régler en partie les problèmes d'énergie par justement, par exemple, le photovoltaïque qu'on va mettre sur les maisons, etc. Voilà. Et donc, ce deuxième point, d'essayer de raisonner dans l'ensemble de nos manières d'aménager les territoires en s'opposant un peu à une manière de zoner les espaces et de chercher plutôt une sorte de complexité, mais qui est plus riche, qui est plus intéressante, c'est un peu un deuxième point, un deuxième axe de travail sur lequel on insiste. Le troisième point, c'est de dire, dans l'aménagement de l'espace, du territoire, eh bien, jusqu'à présent, c'était un peu des règles qui venaient des responsables qui savaient tout, des experts de tous ces gens-là, de la data, des services de l'État ou des services privés. Et bon, la population subit tout ça. Alors que la population, en général, elle est experte de son territoire. Il y en a qui sont chasseurs, qui savent très bien où passe le gibier. Il y en a d'autres qui sont paysans, ils savent comment fonctionne leur territoire. D'autres sont des élus, d'autres sont de simples habitants, mais ils ont leurs besoins, etc. Et toutes ces personnes sont intéressées par un cadre de vie de qualité. Ils aimeraient qu'on arrive à leur fabriquer, ou qu'ils fabriquent eux-mêmes, un espace de qualité. Et donc si on les met ensemble à discuter, chacun avec leur savoir, en allant sur le terrain, en regardant et en se posant la question comment on va engager une transition énergétique, une transition vers le développement durable, qui en même temps nous permettra d'améliorer notre cadre de vie, eh bien c'est des moyens, des méthodes de travail qui sont beaucoup plus riches. Parce qu'on va avoir une expertise bien plus grande. Et alors, on dit souvent, paysage, c'est pas important parce que c'est subjectif. Mais justement, c'est la subjectivité de chacun. Quand on met tout le monde ensemble, nous permet d'avoir une appréciation plus intéressante, plus complète d'un territoire. Et donc, de trouver des solutions qui seront mieux adaptées. Voilà. Donc, et ça, c'est l'impliquer les populations, c'est essentiel. On ne pourra pas y arriver si on n'implique pas les populations dans ces débats sur la transition énergétique, parce qu'il va falloir aussi qu'on soit plus économe, que chacun, il faudra qu'on transforme ses modes de vie également, que la voiture soit utilisée différemment, que l'habitat, on fasse plus attention, etc. Et enfin, le dernier point, qui vient peut-être du mot paysage, qui porte en lui-même une notion de qualité. On insiste sur le fait que, notamment si on veut impliquer la population, on remette à l'ordre du jour que la notion de beauté. Quand on travaille avec les aménageurs, les ingénieurs de tout poil, aujourd'hui, le mot beauté est tabou. On n'a pas le droit de parler de beauté quand on est dans des réunions où on réfléchit à l'aménagement du territoire. Comme si ça n'avait pas de sens. Or, pour la population, ça a un sens très précis. C'est leur cadre de vie, leur manière de vivre. Et chacun essaye de trouver des lieux où il va se sentir bien. En vacances, de toute façon, c'est clair, tout le monde va essayer de trouver des lieux où ça va être joli, beau, touristique, etc. Enfin, le tourisme mise beaucoup là-dessus. Mais au quotidien, c'est également une nécessité que les territoires que l'on fabrique pour demain soient des territoires qui reflètent une beauté, qui soient une beauté contemporaine, qui ne soient pas simplement la protection du passé, parce que dans le passé, on aurait été plus malin. En tout cas, ce ne sera sans doute pas la protection de ce qu'on a fait ces 50 dernières années. Mais donc, il faut qu'on soit capable de créer, comme l'ont fait nos anciens, une qualité spatiale dont nos enfants seront fiers, et eux auront peut-être envie de la protéger. Voilà, enfin, c'est un peu les quatre points sur lesquels on insiste dans nos travaux.
Voilà, nous étions avec Régis Ambroise, on rappelle, président du collectif Paysage de l'après-pétrole, le paysage comme outil de la transition énergétique, une centrale photovoltaïque sur un bâtiment industriel à Bataville. C'était, on rappelle, dans le cadre de ces conférences annuelles des territoires vers la transition énergétique. C'était avec le PNRL le jeudi 30 juin à Bataville, à Moussé. Merci beaucoup de votre intervention, d'avoir fait le petit bilan de ce rendez-vous. Et puis, la radio vous est évidemment disponible, si vous avez des petites choses à communiquer auprès de nos auditeurs. C'est avec plaisir. Merci beaucoup, Régis.
Eh bien, écoutez, au revoir.
À très vite, au revoir.